Et c'est pas la première fois que je vous la pose cette question. C'est quoi pour vous un bon chrétien? C'est quoi pour vous un bon chrétien? Imaginez que je vous présente quelqu'un aujourd'hui, disons que cette personne s'appelle Jean-Pierre, et Jean-Pierre, il vient à l'église tous les dimanches, il est fidèle à l'étude biblique en semaine, les fameux groupes de maison qu'on va démarrer en semaine. Il a une très bonne connaissance de la Bible et de la théologie, ce Jean-Pierre. Ses enfants, d'ailleurs, sont très respectueux et obéissants. Jean-Pierre leur enseigne le catéchisme toutes les semaines, et avec sa femme, ils sont très soudés. Jean-Pierre a beaucoup réfléchi à beaucoup de sujets différents, et comme il est très intelligent, Jean-Pierre, il a une opinion précise sur beaucoup de ces sujets. Parce qu'il y a beaucoup réfléchi, que ce soit sur la question du déroulement du culte, sur la politique, sur l'éducation des enfants, sur l'art et la culture, sur la science, etc. Jean-Pierre a beaucoup réfléchi à tout ça, il a une opinion sur beaucoup de ces sujets, et il est capable de défendre ses opinions avec beaucoup de persuasion et de fermeté. Voilà, Jean-Pierre, c'est un homme fort, un homme de caractère, vous voyez. Mais surtout, Jean-Pierre, il impressionne par sa consécration. Jean-Pierre, il est vraiment très discipliné dans la vie. Il semble d'ailleurs mener une vie irréprochable. Il chante fort au culte, plus fort que les autres. Et quand vous avez l'occasion d'entendre Jean-Pierre prier, waouh, ses prières sont tellement éloquentes et puissantes et pétries de théologie biblique et de dévotion à Dieu, tellement que ça se voit sur son visage quand il prie, ça se tortille dans tous les sens. Il manquerait plus que Jean-Pierre ait fait des études de théologie, qu'il soit devenu pasteur, qu'il ait écrit quelques livres et animé quelques conférences. Et là, on se dirait, bon, ok, Jean-Pierre, c'est le bon chrétien. C'est le chrétien par excellence. C'est quelqu'un d'impressionnant. C'est un homme vraiment pieux. N'est-ce pas? Et vous savez quoi? Je suis prêt à parier qu'il y en a quelques-uns parmi nous ici ce soir qui aimeraient ressembler un peu plus à Jean-Pierre. Mais je suis prêt à parier qu'il y a aussi quelques personnes parmi nous ce soir qui, à l'inverse, sont plutôt repoussées, vous savez, par ces gens impeccables, qui semblent être des donneurs de leçons, de morale en permanence, des gens qui nous semblent, on a l'impression qu'ils se croient supérieurs spirituellement aux autres et apparemment complètement sanctifiés, ces gens-là. Et peut-être même que pour vous, je ne vous connais pas tous, peut-être même que c'est une pierre d'achoppement, cela, pour vous, par rapport à la foi chrétienne, parce que les gens comme ça vous repoussent. Eh bien, quoi que vous en pensiez, écoutez bien. Dans le texte qu'on est sur le point de lire, ce sont des gens qui ressemblent à Jean-Pierre, que Jésus va maudire et traiter de fou, d'aveugle, et de serpents. Vous allez voir que ce passage, c'est un passage qui décape, si j'ose dire, où Jésus va livrer un véritable réquisitoire contre les responsables religieux de son époque, contre ces gens qui, aux yeux de la population, incarnaient justement cette espèce d'élite religieuse, garante de la bonne théologie et de la bonne morale. J'ai nommé les scribes et les pharisiens. Alors on a déjà parlé des scribes et des pharisiens dans le cadre de cette série de messages sur l'évangile selon Matthieu. Les scribes et les pharisiens, les plus hauts responsables religieux, en tout cas les plus éminents responsables religieux dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Et tout ce passage qu'on est sur le point de lire, vous allez voir, est destiné à avertir les croyants contre la tentation de suivre ces gens-là, de les suivre, de les imiter, de leur faire confiance et de chercher à faire comme eux. Alors c'est un passage virulent qui va vous surprendre peut-être si vous ne l'avez jamais lu, si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire ce passage, mais le but de ce passage est de nous faire comprendre une idée toute simple en définitive, c'est la suivante, c'est que la sophistication religieuse n'équivaut pas à la fidélité à Dieu. La sophistication religieuse n'équivaut pas à la fidélité à Dieu. Permettez-moi d'ajouter juste avant de lire que je pense que notre Église, ici, est particulièrement concernée par ce message. Pourquoi? Parce que les gens qui sont les plus enclins à ressembler aux scribes et aux pharisiens, les endroits où on a le plus de chances de rencontrer des Jean-Pierre, si vous voulez, ces gens-là qui sont le plus enclins à ressembler aux scribes et aux pharisiens, ce sont justement ceux qui ont une théologie solide et précise, qui ont un attachement robuste à l'autorité de la Bible, qui ont un goût pour l'argumentation et le débat, pour ne pas dire parfois un goût pour la polémique, qui ont un positionnement clair sur toutes sortes de questions, notamment sur des questions éthiques, et qui valorise ce qu'on appelle en théologie la sanctification, c'est-à-dire la mise en conformité de la vie du croyant avec les exigences morales de Dieu. Et ça, mes amis, c'est tout nous, l'Église réformée évangélique de Lyon-Gerland. Si vous ne savez pas, bienvenue à l'Église réformée évangélique de Lyon-Gerland. Et si vous êtes là depuis longtemps, ouvrez grand vos oreilles pour écouter ce qui suit. Je vais donc lire l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 13. C'est un passage un peu long, je vais essayer de ne pas trop traîner. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. C'est Jésus qui parle, dans le contexte ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « Oh, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Conducteurs aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et vous de même, au-dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes, et que vous dites, oh, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Eh bien vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne ? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. C'était la parole de Dieu. Avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole et merci pour l'occasion qu'on a encore ce soir de la lire et d'y réfléchir, de la méditer tout simplement. Conduis toi-même ces instants, s'il te plaît, par ton Saint-Esprit. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Sophistication religieuse, ça n'équivaut pas à la fidélité à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Les deux ne sont pas équivalentes. Les deux ne vont pas forcément ensemble. Le premier point qu'on peut tirer de ce texte, c'est qu'on peut être pieux en apparence et en même temps ennemi du royaume de Dieu. Ce texte est donc constitué, vous l'avez vu, d'une série de paroles de malédiction, en quelque sorte, prononcées par Jésus. Et à chaque fois, ces paroles sont introduites par une expression commune, « Malheur à vous ». Et les trois premières de ces paroles concernent un problème d'apparence trompeuse. Versets 13 à 15. Au verset 13, il est question de ces responsables religieux, les fameux scribes et les pharisiens, qui sont reconnus comme étant des responsables religieux. Ils ont, pour ainsi dire, les clés du royaume des cieux. Mais d'après Jésus, ils utilisent ces clés non pas pour ouvrir les portes du royaume des cieux pour laisser entrer les gens, mais ils utilisent ces clés pour les fermer à double tour et empêcher les gens d'y entrer. D'ailleurs, eux-mêmes n'y entrent pas. Puis verset 14, Jésus dit que ces responsables religieux, en fait, ils exploitent les vulnérables comme les veuves en se dissimulant derrière de grandes prières impressionnantes. Puis ensuite, verset 15, Jésus affirme que ces responsables déploient un énorme zèle religieux et sont capables de faire beaucoup de kilomètres pour aller faire un converti. Mais, et peut-être sans le savoir, ils sont en fait en train de servir les intérêts du diable, c'est ce que dit Jésus ici. Jésus est donc en train de dire, vous voyez, qu'il est possible d'avoir un statut respectable et une consécration religieuse apparente, tout en causant en réalité d'importants dégâts au royaume de Dieu, c'est-à-dire en ne servant pas les intérêts de Dieu, mais en nuisant aux intérêts de Dieu. C'est possible d'avoir les deux, ce décalage entre l'apparence et la réalité. On peut sembler être très dévot, très consacré, très pieux et être en réalité en même temps très destructeur pour ce qui concerne les intérêts de Dieu. On peut être pieux en apparence donc et en même temps ennemi du royaume de Dieu. C'est une possibilité. L'habit ne fait pas le moine et c'est le premier point soulevé par ce texte. Alors imaginez qu'on vous serve un jour à manger un plat extrêmement bien présenté. Vous savez comment ça se passe dans les restaurants de nos jours. On vous sert une assiette avec une petite pyramide d'aliments magnifiquement construite, très, très symétrique. Et puis autour de la pyramide, on va vous faire une petite décoration avec la sauce sur l'assiette. Puis on va mettre un petit peu de verdure sur le sommet. Vous avez de belles formes, de belles couleurs. Tout cela servi par un garçon en costume parfaitement repassé, immaculé, voilà, c'est super magnifique, super appétissant. Mais tout ça ne veut pas dire forcément que le plat est bon, n'est-ce pas? Peut-être que vous seriez même incapable d'en avaler une seule bouchée de ce plat après l'avoir goûté. Un plat bien présenté n'est pas forcément un plat qui a bon goût. Mais on peut même aller plus loin. Un plat bien présenté et qui a bon goût n'est pas forcément un plat qui est bon pour votre santé. On peut tout à fait imaginer une assiette magnifiquement présentée, remplie d'aliments délicieux dans la bouche, mais très mauvais pour la santé, voire même, dans certains cas, empoisonné. Vous savez, le poison, dans certains cas, n'a même pas de goût. Donc la présentation, l'apparence n'est pas une garantie de l'effet qui sera produit par le plat ou par cette nourriture. Et c'est pareil en matière de religion, si j'ose dire. Les apparences peuvent être trompeuses. C'est ce que Jésus nous enseigne ici dans un premier temps. Et de ce premier point, on peut tirer une première application. C'est que nous, aujourd'hui, il nous faut relativiser la valeur des manifestations extérieures de piété. Il nous faut relativiser la valeur des manifestations extérieures de piété. Alors c'est sûr, on est naturellement impressionné, n'est-ce pas, par les gens qui prient bien, entre guillemets, les gens qui prêchent bien, qui consacrent leur vie à un service chrétien particulier, à une mission chrétienne, comme les pasteurs, comme les profs de théologie. On admire ces gens qui ont de bonnes connaissances théologiques et bibliques, ces gens qui ont des diplômes, qui ont écrit des livres, qui ont un statut et une reconnaissance dans la société ou dans l'Église. On admire ces gens qui ont des titres comme docteur, révérend, président, professeur émérite, etc. Et évidemment, rien de tout cela n'est mauvais en soi. On est d'accord, rien de tout cela n'est mauvais en soi, mais il nous faut en relativiser la valeur. Il ne faut pas que nous nous fions à cela par-dessus le reste. Il ne faut pas que nous recherchions cela par-dessus le reste. Car la réalité, c'est qu'on peut être pieux en apparence, super pieux en apparence, et en même temps ennemi du royaume de Dieu. L'habit ne fait pas le moine. Maintenant que ce principe a été établi, Jésus va entrer un peu plus dans le détail. Et donc le deuxième point qui apparaît dans ce passage, versets 16 à 22, c'est qu'il ne faut pas s'attacher scrupuleusement aux choses moins importantes au détriment des choses plus importantes. Il ne faut pas s'attacher scrupuleusement aux choses moins importantes au détriment des choses plus importantes. Et là, il y a ici une quatrième parole de malédiction, encore une fois introduite par cette expression « malheur à vous ». Cette fois, cette parole est un peu plus longue, un peu plus développée, et Jésus dénonce ici une attitude, semble-t-il, typique des scribes et des pharisiens qui consistait à accorder plus d'importance spirituelle à certains détails du culte de l'époque plutôt qu'aux éléments essentiels du culte de l'époque. Donc ces scribes et ces pharisiens, ils insistaient en l'occurrence beaucoup sur la valeur de l'or du temple au détriment du temple lui-même. Et ils insistaient beaucoup sur la valeur de l'offrande que l'on plaçait sur l'autel au détriment de l'autel lui-même. Et tout cela au point d'engager la conscience des croyants vis-à-vis de ces détails de leur religion plutôt que vis-à-vis des éléments beaucoup plus importants de leur religion. Et au verset 20 à 22, Jésus va remettre tout ça, toutes ces choses à leur juste place, en rappelant en quelque sorte le rapport hiérarchique entre tous ces éléments, en montrant que oui, le temple est supérieur à l'or du temple. D'ailleurs, Dieu est supérieur au temple. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus remet ces choses à leur juste place, en montrant que c'est vis-à-vis de Dieu avant tout que la conscience des croyants doit être engagée et que tout le reste devrait découler de cela. Le problème des scribes et des pharisiens, c'est qu'ils ont inversé cet ordre de priorité. Ils ont accordé plus d'importance à l'or du temple qu'à Dieu, en fin de compte. Et la leçon pour nous, c'est donc, en effet, qu'il ne faut pas s'attacher scrupuleusement aux choses moins importantes au détriment des choses plus importantes, sous peine de lier notre conscience à des éléments secondaires qui vont finir par conditionner notre relation à Dieu, alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est notre relation à Dieu qui devrait conditionner notre rapport à tout le reste. Vous voyez, les scribes et les pharisiens avaient inversé cet ordre de priorité. Et Jésus remet les choses à leur place. Et en réfléchissant à ce point cette semaine, je me suis dit que beaucoup d'entre nous, nous avons nos propres petites manies, c'est pas vrai? Pour ne pas dire parfois des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs, en tout cas sous une forme bénigne. Et ce qui caractérise ces petites manies que nous avons, c'est que nous accordons une importance démesurée à des petites choses, n'est-ce pas? Au point parfois d'être liés par ces petites choses, parfois d'être pratiquement sous leur emprise. Je vous donne en exemple une petite manie que j'ai personnellement. Voilà, personne n'est au courant de ça, donc vous avez bien fait de venir, vous allez avoir droit à un scoop. Il se trouve qu'à chaque fois que je suis sur le point d'utiliser une petite cuillère, ne riez pas tout de suite, je suis obligé de l'essuyer à l'aide de mes doigts ou de la serviette. Je suis obligé d'essuyer ma petite cuillère. C'est bizarre, hein? Alors je me suis rendu compte de ça il y a quelques années. Alors c'est pas bien méchant, hein? C'est même pas très contraignant. Mais voilà la question. Qu'est-ce qui est plus important? Essuyer superstitieusement la petite cuillère ou manger le yaourt? Quel est l'ordre hiérarchique entre ces deux réalités, ces deux priorités? Et s'il m'était impossible d'essuyer la cuillère? Disons que disons que je suis manchot, mais si j'étais manchot, j'aurais pas l'utilité d'une petite cuillère, mais disons que je ne peux pas, pour X raisons, je ne peux pas essuyer cette cuillère. Est-ce que je serais capable de manger et d'apprécier le yaourt? Là, je me pose la question, c'est très sérieux. Hein? J'en perds le sommeil parfois, non, c'est pas vrai. Mais c'est sérieux. C'est comme ça que fonctionnent les manies ou les tocs, n'est-ce pas, de petits détails qui ne sont d'ailleurs pas mauvais en soi, hein? Mais qui finissent par nous contrôler en quelque sorte. Je ne vais pas vous demander de partager devant tout le monde quelles sont vos petites manies, mais je suis sûr que la plupart d'entre nous, nous en avons. C'est comme les jeunes enfants qui exigent leur petit rituel avant de se coucher, sans quoi ils sont incapables de dormir. Les câlins, les bisous, les petites histoires, tout ça c'est bien, il n'y a rien de mauvais à ça. Mais on peut se demander s'il n'y a pas une inversion de l'ordre de priorité lorsque le sommeil d'une personne dépend de ces choses. Pas vrai? Bon, c'était une illustration, hein. N'accordez pas trop d'importance à tout ça, revenons à notre sujet. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, un peu pareil, avec la foi. Il ne faut pas que les choses les plus importantes se retrouvent suspendues à des choses moins importantes. Et la réalité, c'est que nous avons beaucoup de mal à maintenir cet ordre de priorité. Honnêtement, est-ce que vous n'auriez pas plus de mal à adorer Dieu d'un cœur sincère si vous alliez, le jour où vous allez à une église où on ne chanterait que des psaumes de la Renaissance a cappella sans instrument? Ou à l'inverse, est-ce que vous n'auriez pas plus de mal à adorer Dieu d'un cœur sincère si vous alliez dans une église où dans le groupe de musique il y avait une guitare électrique, un stroboscope et une batterie? Vous voyez que notre adoration est déjà conditionnée en partie par des aspects pratiques secondaires en réalité. Or, les premiers protestants du XVIe siècle, en accord avec ces paroles de Jésus, ici dans ce passage, ont beaucoup insisté sur l'importance de protéger la conscience des croyants, c'est-à-dire de ne pas lier la conscience des gens à des détails secondaires qui sont généralement des préceptes humains, notamment dans le contexte du culte, au point que ces gens auraient l'impression de ne pas pouvoir adorer Dieu correctement, indépendamment de ces choses. Et les premiers protestants voulaient prévenir ce type de situation, où on aurait l'impression de ne pas pouvoir adorer Dieu correctement, indépendamment de choses qui ne sont pas très importantes. On doit donc éviter de penser nous-mêmes et de faire penser aux autres, par exemple, qu'on doit se lever pour chanter dignement au culte, qu'on doit s'agenouiller pour confesser dignement ses péchés, qu'on doit lever les mains pour recevoir dignement la bénédiction, qu'on doit absolument fermer les yeux pour prier, qu'on doit se signer à l'entrée d'une église, qu'on doit faire le culte dans un certain ordre, qu'on doit utiliser un certain type de pain et du vrai vin rouge pour la Sainte Cène plutôt que de la baguette et du jus de fruits. On doit éviter de penser et de faire penser aux autres que pour être un chrétien digne de ce nom, on doit s'habiller d'une certaine façon, on doit éduquer les enfants de telle ou telle manière, on doit voter pour tel ou tel parti politique, etc., etc. Tous ces sujets, évidemment, sont importants. Tous ces sujets méritent qu'on en parle, qu'on y réfléchisse, qu'on en discute. Et sans doute qu'on peut même parvenir à déceler une certaine sagesse biblique dans la plupart de ces domaines. Mais vous voyez, l'or du temple ne doit pas prendre la place du temple. Il faut être avant tout attaché aux choses les plus importantes et le reste trouvera naturellement sa juste place dans notre conscience et dans notre pratique. Il ne faut pas s'attacher scrupuleusement aux choses moins importantes au détriment des choses plus importantes. Mais passons à la suite. Le troisième point qui apparaît dans ce réquisitoire de Jésus, versets 23 à 28, c'est que la religion peut servir de déguisement efficace à l'infidélité. La religion peut servir de déguisement efficace à l'infidélité. On a là les paroles de malédiction numéro 5, 6 et 7. Jésus dénonce ici la piété superficielle des scribes et des pharisiens qui leur sert de prétexte, de diversion pour ne pas se préoccuper du mal qui est en eux-mêmes, caché dans leur cœur. Versets 23 et 24. Jésus dit que ces responsables religieux, ils payent scrupuleusement leur dîme, c'est-à-dire ils prélèvent 10% de tout ce qu'ils ont, même de leurs épices, pour l'offrir à Dieu. Mais c'est pour se donner bonne conscience alors qu'ils n'obéissent pas aux instructions essentielles de Dieu concernant l'amour du prochain, la compassion envers les faibles et la contrition devant Dieu. Puis ensuite, dans les versets suivants, versets 25 et 26, on voit que d'après Jésus, ces scribes et ces pharisiens se consacrent aux rites extérieurs de la religion sans jamais humilier véritablement leur propre cœur. Puis versets 27 et 28, ces scribes et ces pharisiens se préoccupent de leur apparence et de leur réputation aux yeux des gens plutôt que de l'injustice et de l'impureté qui est cachée, ancrée même en eux-mêmes et qui les rendent détestable aux yeux d'un Dieu trois fois saint dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais ils s'en occupent pas de ça, ils s'en fichent. Ils s'en fichent parce qu'au fond, ils s'intéressent plus à eux-mêmes qu'à Dieu. Et c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de s'intéresser à soi-même plutôt qu'à Dieu. Jésus les traite par conséquent d'hypocrites. Des hypocrites parce qu'ils prétendent être des hommes de foi, mais en réalité, ils trahissent la vraie foi. Vous voyez que la religion peut servir de déguisement efficace à l'infidélité. Et ça ne devrait pas nous surprendre parce que dans bien des circonstances différentes de la vie, il nous est beaucoup plus facile de soigner les apparences que de traiter le vrai problème. C'est pas vrai? Par exemple, ces derniers temps, certains d'entre vous le savez bien, nous avons mis en vente la maison dans laquelle nous avons vécu pratiquement 10 ans. Et dès qu'on a pris la décision de mettre cette maison en vente, on s'est retrouvé assez rapidement sous pression parce que l'agent immobilier allait venir faire l'estimation de la maison, ensuite il allait revenir une deuxième fois faire des photos pour le site internet et ensuite les visites d'acquéreurs potentiels allaient commencer. Mais le problème, c'est qu'avec 6 enfants turbulents et 2 parents débordés, c'est compliqué de garder la maison bien propre et bien soignée et bien rangée. Du coup, dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On ramasse les duplos et les caplas et on les fourre dans des tiroirs On cache le bazar sous les lits, on passe un rapide coup d'aspirateur et de serpillière et on espère de tout notre cœur que personne ne va nous demander d'ouvrir les placards ou de soulever les tapis. C'est une façon facile et efficace d'avoir une maison qui paraît belle au dehors, mais qui au dedans est pleine d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer comment ce point s'applique à notre vie chrétienne? Je crois que nous sommes très forts dans ce domaine, celui de soigner les apparences et de faire diversion pour ne pas révéler le mal qui est en nous et pour ne pas nous en occuper. Vous voyez, je suis capable de consacrer beaucoup d'énergie et de temps à parler en détail de plein d'aspects de la foi, à faire étalage de ma super théologie, à vous montrer comment je prie bien, à vous donner l'impression d'être un gars fidèle et consacré. Je peux vous expliquer en long, en large et en travers comment, en pratique, vous devez vivre votre foi chrétienne, vous et tous les autres d'ailleurs. Et petit à petit, je m'élève au-dessus des autres, je m'enorgueillis, je commence à juger les autres. Et j'entraîne d'ailleurs des gens à ma suite qui commencent à m'imiter dans cette attitude, dans ce comportement. Alors que la réalité, c'est quoi? C'est qu'à la maison, peut-être que je ne respecte pas ma femme. Peut-être que je m'emporte contre mes enfants. Peut-être que je prie que très rarement. Peut-être que je bois trop. Peut-être que je suis paresseux. Peut-être que mes pensées sont remplies de convoitise. Peut-être que je passe mon temps à être sarcastique, cynique, médisant. Et puis, donc ça c'est moi, ça c'est votre pasteur. Et puis, il y a cette autre personne dans l'église, fraîchement convertie, peut-être ça fait 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, qui n'a jamais lu Jean Calvin. Qui ne sait même pas qui c'est, Jean Calvin, il s'en fiche d'ailleurs, qui ne comprend pas grand-chose à la théologie. Mais cette personne-là, elle a le désir irrépressible de prendre du temps chaque jour pour être Dieu, parce qu'elle aime Dieu d'un cœur passionné. Elle est dévouée à ses enfants, cette personne. Elle est remplie de compassion pour les vulnérables. Elle est sensible à son propre péché. Et elle est affligée par son propre péché. Et qui c'est le meilleur chrétien entre les deux? Qui c'est la personne la plus pieuse entre les deux? Jésus l'a dit dans un autre passage. Celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Donc la religion peut servir de déguisement efficace à l'infidélité. Mais le dernier point qui est soulevé par ce passage, c'est peut-être le plus poignant, c'est qu'il est possible de se réclamer de la fidélité à la parole de Dieu tout en trahissant cette parole. Et c'est très grave. Il est possible de se réclamer de la fidélité à la parole de Dieu tout en trahissant cette parole, et c'est très grave. On en arrive ici à la 8e et dernière parole de malédiction, verset 29, prononcée par Jésus à l'encontre des scribes et des pharisiens. Et cette parole concerne cette fois le rapport de ces responsables religieux, leur rapport aux prophètes que Dieu a envoyés dans l'histoire. Ce que Jésus reproche à ces responsables religieux, c'est qu'ils s'approprient les prophètes tout en rejetant leur message. Ils s'approprient les prophètes tout en rejetant leur message. Et en effet, le message principal des prophètes au fil de l'histoire, comme on l'a vu dans les lectures qu'on a faites même aujourd'hui, le message principal des prophètes au fil de l'histoire était d'appeler les hommes à reconnaître leurs péchés, à se repentir et à revenir à Dieu qui est riche en pardon et qui va pardonner les hommes qui lui demandent de leur pardonner. Et les scribes et les pharisiens, ils disent que eux, ils n'auraient pas mis à mort les prophètes s'ils avaient vécu à leur époque, à l'époque de leur père. Or précisément, et c'est ce que Jésus leur fait remarquer, s'ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs eux-mêmes, ils diraient plutôt: Seigneur, nous aussi nous aurions persécuté tes prophètes, parce que nous sommes profondément pécheurs, et nous rejetons aussi ton autorité par nature. Pardonne-nous, aie pitié de nous, des pécheurs. Ce qui est ironique et tragique en même temps, c'est que lorsque Jésus vient, Jésus le prophète comme Moïse, le prophète tant attendu, quand Jésus vient avec ce même message, et qu'ensuite les apôtres arrivent, étant mandatés par Jésus, avec ce même message, ce même appel à la repentance, à la foi, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces fameux responsables religieux? Ils vont faire exactement ce que leurs prédécesseurs ont fait. Ils vont les persécuter et les mettre à mort. Et Jésus dit que cette façon, donc, de se réclamer de la fidélité à la parole de Dieu, tout en trahissant cette parole, c'est extrêmement grave, parce que ça consiste à détourner le seul message qui présente aux hommes perdus le secours de Dieu. Donc c'est grave, non? Si les hommes sont perdus, et que Dieu leur envoie un message de salut, et que les gens chargés d'annoncer ce message le détournent, C'est particulièrement grave, non? En rejetant ce message de façon hypocrite et présomptueuse, et en le détournant même, eh ben, il n'y a plus d'espoir possible. Et c'est pourquoi, à la fin de ce passage, Jésus prononce de manière assez catégorique, il prononce la condamnation de ces gens. Ce que font ces responsables religieux constitue en fait un affront terrible à l'encontre de Dieu et de sa grâce. Alors, dans des proportions très, 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 très différentes, cela me fait penser un peu au fait que, à l'occasion des commémorations du 8 mai, tous les ans, le 8 mai qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh ben on a plein de responsables politiques qui se rendent à des cérémonies qui ont lieu où, ben devant les monuments aux morts. Et en quelque sorte, quand les hommes politiques viennent et se présentent à ces cérémonies, ils sont en train de se réclamer de l'héritage de cette victoire contre le fascisme et la dictature nazie. Ce que je trouve un peu amusant, c'est qu'on a là des gens, des responsables politiques de tous bords, qui le reste du temps s'acharnent les uns contre les autres. Alors je suis sûr que tous ne sont pas en même temps et autant les dignes héritiers de la résistance et de la lutte contre le totalitarisme. Sûrement, il y en a quelques-uns dans le paquet qui sont là purement pour faire de la récupération. C'est un peu comme tous ces politiques, encore eux, qui se disent tous gaullistes. Ils sont tous gaullistes. Ah bon, bah, s'ils sont tous gaullistes, ils n'ont qu'à former un seul parti, et puis ça sera réglé, hein. Or, on sait très bien que tout le monde se dit gaulliste, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment faire autrement s'ils veulent avoir un minimum de crédibilité sous la Ve République. Mais pour ce qui concerne beaucoup d'entre eux, on peut être sûr que le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. S'il entendait ce qu'on entend à la télé, de la bouche de beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Et ce qui se passe dans le texte ici, c'est qu'on a des responsables religieux qui, quant à eux, se réclament de l'héritage, non pas du général de Gaulle, mais des prophètes d'Israël. Ils se réclament de leur héritage, mais tout en trahissant leur message et en faisant se retourner ces prophètes dans leur tombe. La leçon pour nous, c'est qu'il nous est possible de faire cela, c'est-à-dire de se présenter, nous aussi aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, de se présenter comme étant les fidèles dépositaires de la parole de Dieu, les vrais héritiers des héros de la foi qui nous ont précédés, les vrais héritiers des pères de l'Église, des réformateurs et des grands prédicateurs et théologiens des siècles passés, mais de faire cela de manière présomptueuse, en travestissant complètement leur message et leur héritage. Et quand on s'approprie les Écritures, mais qu'on en trahit le message, ce qu'on est en train de faire, c'est ni plus ni moins que du détournement d'Évangile. Du détournement d'Évangile au profit de nos idées et de nos intérêts, et c'est super grave, comme je le disais il y a quelques instants, parce que c'est cet Évangile, cette bonne nouvelle que nous présente l'Écriture sainte, qui, d'un côté, pointe notre péché, mais qui, en même temps qu'elle nous pointe notre véritable nature coupable aux yeux de Dieu, elle pointe en même temps et heureusement la grâce qui nous est présentée en Jésus-Christ, et donc le seul secours qui est offert aux hommes. Le message de la Bible, c'est que nous sommes des êtres déchus, et que nous ne pouvons pas nous fier à nous-mêmes, à notre propre intelligence ou à nos propres capacités pour rétablir ce qui est dysfonctionnel en nous. Fondamentalement, nous sommes séparés de Dieu qui nous a créés, mais Dieu est venu nous secourir dans cet état de perdition dans lequel nous nous trouvions par notre propre faute. Et pour cela, il a envoyé son Fils Jésus-Christ régler la dette de nos péchés par ses souffrances, sa mort sur la croix et sa résurrection. Et maintenant Dieu s'adresse à nous en nous disant justement par les prophètes, par les apôtres, par la Sainte Bible et de façon suprême par Jésus-Christ, Dieu nous dit « Venez à moi, reconnaissez votre misère, confessez vos péchés, demandez-moi pardon et je vous pardonnerai, je vous recevrai dans mon royaume, je vous prendrai pour mes propres enfants et mes héritiers, j'échangerai votre condamnation pour la vie éternelle en ma présence glorieuse. » Mais vous voyez, si nous travestissons ou détournons ou étouffons ce message, il n'y a plus d'espoir, parce que nous nous coupons nous-mêmes et nous coupons les autres de la seule issue à notre misère. Et c'est comme ça qu'on ferme les portes du royaume des cieux et qu'on n'y entre pas nous-mêmes et qu'on empêche d'y entrer ceux qui voudraient y entrer. C'est pourquoi nous devons faire l'effort conscient de nous souvenir, et cela d'autant plus que nous avons de bonnes connaissances bibliques et théologiques, nous devons faire un effort conscient de nous souvenir que nous ne sommes pas les maîtres de la parole de Dieu, mais que c'est elle qui doit nous maîtriser. Nous ne sommes pas les maîtres ou les propriétaires de la parole de Dieu, c'est elle, la parole de Dieu, qui doit nous maîtriser. Nous devons toujours aborder la parole de Dieu par en dessous, plutôt que par au-dessus, par en dessous, et nous laisser instruire, corriger et transformer. Nous devons accueillir volontiers cette humilité, cette contrition suscitée par la parole de Dieu dans notre vie. Et cette humilité, cette contrition vont à leur tour produire en nous un véritable amour pour notre prochain, une véritable compassion pour les faibles, et une foi authentique en Dieu, notre bienveillant Sauveur. Je conclus rapidement. C'est quoi donc un bon chrétien pour vous? Qui sont les modèles que vous admirez et auxquels vous souhaitez ressembler? Et pourquoi souhaitez-vous leur ressembler? Ce qui vous attire, est-ce que c'est la connaissance théologique et biblique? Ce qui vous attire, est-ce que c'est la discipline religieuse? Vous aimeriez être plus discipliné? Est-ce que ce qui vous attire, c'est un statut particulier dans l'Église, une fonction qui vous paraît éminente? Ou bien ces choses, peut-être, vous repoussent-elles? Ça se trouve, ça vous repousse tout ça. Quoi qu'il en soit, et au risque de vous décevoir ou de vous rassurer, voici la leçon de ce passage, c'est que la sophistication religieuse n'équivaut pas à la fidélité à Dieu. La sophistication religieuse n'est pas fondamentalement mauvaise, hein, et les disciplines de la vie chrétienne sont bonnes, et les connaissances bibliques et théologiques, et la piété, et le zèle, et la beauté dans le culte, et un certain nombre de rites et de cérémonies, tout ça, c'est pas mauvais en soi, bien sûr que non, et beaucoup de ces choses sont même excellentes et très bonnes. Mais tout cela ensemble n'est pas équivalent à la fidélité à Dieu. Et tout cela peut quand même s'opposer à l'Évangile et devenir un piège mortel pour l'âme, la nôtre en premier et celle des gens que nous fréquentons, si nous ne restons pas attachés à ce qui est de loin le plus important. Comme nous y exhortent les prophètes, les apôtres et Jésus, et comme le dit d'ailleurs le roi David, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Amen. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous avons régulièrement besoin que tu nous corriges, que tu nous rappelles peut-être des fois des évidences, mais nous avons besoin de les réentendre. Et nous voulons ce soir, à l'écoute de ta parole, te demander pardon si nous avons laissé la place à la sophistication religieuse, à la place d'une vraie fidélité, d'une vraie fidélité à toi. Alors s'il te plaît, par ton Saint-Esprit, viens faire le ménage en nous. Aide-nous à accueillir tout ce que tu veux faire en nous, à accueillir l'humilité et la contrition que tu veux susciter dans notre cœur. Fais-le de manière puissante, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.